Alors le thème, c'est la sagesse divine ou la sagesse humaine. Un appui avec ce verset que j'aime beaucoup. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crainte, non pas dans un sens de peur, mais de respect, d'écoute et d'obéissance. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche, lisons le passage de l'épître de Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 18. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas, ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre de toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté, elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens, et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux, comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Alors c'est clair, il faut bien distinguer entre la fausse sagesse et la vraie sagesse. Alors la Bible nous dit que la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Autrement dit, ce que le monde appelle sagesse est en réalité une folie pour Dieu. Et ce que le monde appelle folie est une sagesse devant Dieu. On le verra encore un petit peu plus tard. Alors la fausse sagesse est issue uniquement des connaissances de l'homme naturel qui croit pouvoir se débrouiller seul, sans la puissance de Dieu, et en rejetant le message de la croix. La vraie sagesse, au contraire, que l'on peut demander à Dieu, elle est diamétralement opposée à la sagesse humaine. Elle requiert de se soumettre, mais elle offre une capacité de discernement, de clairvoyance, aboutissant à une conduite réfléchie et modérée. Être sage, c'est se servir des connaissances acquises au contact divin et de son intelligence pour prendre les bonnes décisions. De nombreux personnages de la Bible ont utilisé ce discernement, cette clairvoyance, pour gérer les décisions difficiles de leur vie. Un exemple de Sarah, elle estima fidèle celui qui avait promis. Et pourtant, pour cette femme âgée, il était impossible d'enfanter, mais elle discerna que Dieu tiendrait sa promesse parce qu'il est un Dieu fidèle. Où Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, il avait discerné que Dieu pouvait, le cas échéant, le ressusciter d'entre les morts. Et puis Moïse lui avait discerné qu'il valait mieux s'associer à un peuple souffrant et méprisé plutôt que de profiter des honneurs et des plaisirs que lui offrait la cour de Pharaon. Il regarda à l'avenir, aux bénédictions que Dieu lui donnerait. Alors la sagesse que Dieu nous offre requiert néanmoins de l'obéissance. Pour bien comprendre cette facette de la vraie sagesse, permettez-moi alors cette petite explication. Jésus aime tous les enfants sans exception, les sages et les moins sages. Son amour est inconditionnel. Alors le petit chant suivant peut paraître plus restrictif, mais constitue un encouragement valable à suivre les conseils contenus dans la Bible. C'est en tout cas ce qu'on nous enseignait dans notre jeune âge. Jésus aime les enfants quand ils sont bien sages, quand ils sont bien sages. Jésus aime les enfants quand ils sont obéissants. Voilà, plus sérieusement, nous avons tous des décisions à prendre dans nos vies, qu'elles soient professionnelles, privées, communautaires, et chacun aimerait le faire avec un maximum de chances de faire les bons choix. Et c'est là que la différence entre les deux genres de sagesse va se faire sentir. Nous pouvons en effet baser notre conduite sur nos possibilités humaines, sur notre bon sens, en nous basant sur l'exemple du monde qui nous entoure. Et un bon exemple à ce sujet sont les fables de La Fontaine. La morale du corbeau et du renard déclare « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. » Ou le lièvre et la tortue, que j'ai parlé tout à l'heure, « Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. » Et en utilisant cette sagesse terrestre, nous allons très vite chercher égoïstement notre intérêt et avoir envie de passer devant les autres. En exemple, la fable de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. À l'opposé, si nous reconnaissons nos limites et sollicitons la sagesse qui vient de haut, on entre dans une autre dimension qui dépasse le domaine du simple bon sens. Il en résultera une conduite pure, sans mélange, pacifique, désir de vivre en paix avec les autres, modérée, c'est-à-dire sans excès, conciliante, cherchant à unir, pleine de bonté, de sincérité, sans hypocrisie. Et si nous rapprochons maintenant ces qualificatifs avec le verset de Galates 5, 22 concernant le fruit de l'esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, il n'est plus difficile de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui va dicter nos choix, notre conduite en toute sagesse. Lorsque nous parlons de sagesse ou de sage en Suisse, nous pensons immédiatement à nos 7 sages à Berne, nos conseillers fédéraux. Personnages non dépourvus d'intelligence, de connaissances et appelés à prendre de nombreuses décisions importantes. Le font-ils avec leur sagesse humaine, sur la base de leur savoir, de leur bonne connaissance des dossiers, comme on dit? Le risque est malgré tout grand qu'ils se trompent. Le font-ils ou le feraient-ils avec l'aide divine? Leurs choix sont ou seraient à coup sûr les bons. Et on peut prier pour eux dans ce sens. Alors, un personnage de la Bible avait bien compris cela, Salomon. Lisons encore dans 2 Chroniques, chapitre 1, les versets 7 à 12. « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un pays nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Alors la capacité et la faculté de discernement de Salomon sont des caractéristiques essentiellement de la sagesse divine. Cette sagesse est magnifiquement illustrée dans 1 Roi 3, les versets 16 à 28. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour aller allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole, dit « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Il y a encore une petite condition malgré tout à ce que Salomon avait reçu. Cette sagesse qui vient d'en haut, elle doit être entretenue. Elle doit être scellée par un attachement sans faille ou à son dispensateur, Dieu en l'occurrence, faute de quoi la vieille nature pourrait reprendre dessus. Là, on peut lire dans 1 Roi 11, versets 9 à 11. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Alors, on va garder le positif de l'exemple de Salomon et dans l'absolu, on va en prendre un autre qui est plus parfait. Et c'est l'exemple bien sûr de Jésus qui, attaché à son Père, a donné de nombreux exemples de la vraie sagesse. Dans Luc, quand il était petit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Puis dans Jean 8, il y a sa magistrale gestion de l'épisode de la femme adultère. Dans Colossiens, Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et puis un des plus beaux passages que j'aime à ce sujet, c'est dans Ésaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et ne se prononcera point sur un ouï-dire. On peut se rappeler encore l'avertissement contenu dans la parabole des 10 vierges. Des vierges sages et des vierges folles, et que c'est en respectant la sagesse de Dieu que nous pouvons être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a encore aussi cette merveilleuse promesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Permettez encore ce petit chant qui contraste bien entre la folie et la sagesse. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et ton arriva. Le vent souffle à conduit tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Alors, conclusion. Il n'est pas fou, mais au contraire sage de. On a dit, je crois en toi, etc. Croire en un Dieu que l'on n'a jamais vu. Ça, c'est pas fou, c'est sage. Croire que Dieu a un fils. Croire que ce fils est venu sur la terre, même si nous ne l'avons jamais vu. Croire que ce fils est venu sur la terre comme étant Dieu, mais en même temps homme. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Croire que tout enfant qui naît sur terre est déjà pécheur à sa naissance et qu'il a besoin d'un sauveur. Et croire que le Fils de Dieu est mort et ressuscité pour effacer notre dette envers Dieu et qu'en se repentant, en acceptant son pardon, nous ayons la vie éternelle. Croire que la crucifixion n'était pas une défaite, mais la plus grande victoire pour l'humanité. Croire que le Fils de Dieu, qui a tout accompli, reviendra un jour pour que nous ne connaissons pas, pour nous emmener dans un paradis que nous ne pouvons même pas localiser dans l'univers. Tout ça, c'est sage, ce n'est pas fou. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Amen.